Vous écoutez RFI, il est 17h30 en temps universel, 2h de plus à Paris.
Le débat du jour. Diane Berger.
200 ans après, l'Élysée annonce qu'une commission d'historiens français et haïtiens va se pencher sur la très lourde indemnité financière imposée par la France à Haïti en échange de son indépendance. Si l'on ignore encore les recommandations qui pourront en émaner, les questions sont nombreuses. Quelles formes peuvent prendre des réparations? Sont-elles nécessairement financières? À Haïti, comme dans d'autres pays, la dette des ex-puissances coloniales est-elle seulement quantifiable? La dette coloniale est-elle remboursable? C'est la question qui va nous occuper pendant une demi-heure. Nos invités pour en parler, Énance Saint-Fleur, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'Université d'État d'Haïti et docteur de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Avec nous également Frédéric Régent, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste des sociétés esclavagistes dans les colonies françaises du XVIIe au XIXe siècle et de la Révolution française et haïtienne. Et puis en ligne avec nous également Nicolas Bancel, historien professeur à l'Université de Lausanne, spécialiste de l'histoire coloniale et postcoloniale. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, tous ensemble, nous allons réfléchir à cette vaste question. La dette coloniale est-elle remboursable? Mais avant toute chose, j'aimerais que l'on revienne donc sur cette annonce faite par l'Élysée. Énance Saint-Fleur, nous avons la chance de vous avoir en studio aujourd'hui avec nous à Paris. Vous vivez sinon en Haïti. Et en tant qu'historien, mais aussi en tant qu'historien haïtien, comment est-ce que vous accueillez la nouvelle du lancement de cette commission?
C'est une très bonne nouvelle et pour moi un bon point de départ pour agiter davantage la question de la dette.
Oui, vous avez des attentes précises?
Non, les attentes ne peuvent être précises dans la mesure où ce n'est pas une question définitivement réglée. C'est lancé, bon, disons, ça fait débat, puisque le président de la République parle de la capacité de faire fonctionner le dialogue pour pouvoir avancer. Il parle même d'une commission qui va être bientôt montée autour de la question. Moi, je pense qu'ici, c'est un bon point de départ.
Oui, un point de départ, j'imagine que c'est aussi la réponse à une longue attente des Haïtiens.
Tout à fait.
Et alors Frédéric Régent, vous, comment est-ce que vous accueillez cette nouvelle? Est-ce que vous avez espoir qu'on arrive à recréer du dialogue?
Oui, il faut absolument créer du dialogue et aussi créer les conditions de la reconstruction d'Haïti. Le problème principal actuellement, c'est pas la dette, hein, c'est le fait que il y a très peu de présence de l'État à Haïti, l'insécurité, la présence des gangs. Et peut-être que justement, la question de la dette et une aide financière conséquente peut être le début d'une solution pour une situation qui est vraiment dramatique actuellement à Haïti.
Oui, mais donc vous attendez en tant qu'historien, en tout cas il vous paraît très légitime en tant qu'historien, qu'au moins une partie de la réponse soit financière, c'est nécessaire, c'est indispensable pour aider Haïti?
Oui, et d'ailleurs, il ne s'agit pas de tant de réparation que de restitution. Hein. C'est une somme qui a été payée par le peuple haïtien aux anciens planteurs, mais le tout sous l'égide de l'État. Et ce qu'il faut... ce qu'il faut savoir, c'est que ces sommes étaient absolument considérables pour une économie aussi fragile qu'était celle d'Haïti de 1825 jusqu'au quasi-achèvement du paiement de la dette dans les années 1870.
Oui, et puis il y a aussi les intérêts qui, si je ne dis pas de bêtises, ont fini d'être remboursés dans les années 1950, donc plus d'un siècle après l'indépendance.
Alors, là, c'est un peu plus compliqué parce qu'en 1876, la dette est quasiment finie d'être payée. Je crois qu'il y a quelques millions, enfin... Aujourd'hui, quand on a 1000 milliards de dettes, on se dit qu'on peut parler de quelques millions. Mais l'État haïtien réemprunte, mais pour aussi d'autres éléments. D'ailleurs, des emprunts qui n'ont pas toujours été utilisés à bon escient. Donc voilà, c'est sûr que si voilà, il y a encore un peu que de dette dedans, mais le principal du capital a été remboursé en 1876.
Mmh. Et Énance Saint-Fleur, est-ce que justement cette dette que Haïti a dû, cet argent qu'il a fallu reverser à la France, à quel point cela a joué dans les difficultés de développement d'Haïti.
Oui, alors comme vient de souligner le professeur Régent, Haïti se trouve maintenant dans l'ère des bouleversements les plus insensés de son histoire, quitte à savoir s'il s'agit des méfaits politiques accumulés. Donc oui, la dette est pour la réparation, une réparation totale. Maintenant, la question à laquelle il faut répondre, par qui la dette sera remboursée? Est-ce que le gouvernement français va mettre tout en œuvre dans l'immédiat, puisque les dialogues, ça peut prendre un an, ça peut prendre deux ans, ça peut prendre un siècle, je ne sais pas quand. Mais,
et pour l'instant, il n'est pas question de réparation financière, en tout cas pas explicitement.
La question de réparation financière, on peut se demander, mais pour qui alors? Et puisque les victimes n'étaient pas au même degré, par exemple, il y a les élites et il y a la masse. On sait qu'après l'ordonnance, le peuple de nouveau libre était invité à renouveler l'expérience dans les plantations. Donc, c'est le retour à l'esclavage. Donc, on ne sait pas comment on va faire ça, puisque s'il s'agit d'une dette financière, je pense que là, ce serait l'occasion de financer, de financer les nouveaux riches, si vous voulez, et puis les victimes, il reste encore des victimes.
Oui, avec donc un risque que l'argent ne serve pas à bon escient, ne serve pas aux bons endroits, ne serve pas au développement.
Je le pense fortement.
On entend bien qu'il y a énormément de questions qui se posent. J'aimerais donner maintenant la parole à Nicolas Bancel, qui est donc en ligne avec nous. Nicolas Bancel, quand on parle de rembourser une dette, il faut d'abord pouvoir la mesurer ou l'estimer. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut chiffrer ou donner une estimation? Est-ce qu'on peut calculer ce qu'est la dette des anciennes puissances coloniales?
C'est extrêmement difficile à calculer. J'aimerais juste revenir une seconde, si vous le voulez bien, sur votre première question, sur l'accueil justement de cette nouvelle commission entre les chercheurs, historiens, haïtiens et français, qui est une bonne nouvelle, comme l'ont souligné mes collègues, et qui se produit dans une espèce de continuité, hein, puisque bon, on peut l'opinion sur Emmanuel Macron qu'on souhaite, mais on ne peut pas lui enlever le fait qu'il a mis sur la table quand même des questions historiques et mémorielles qui étaient largement tabou. Hein. On pense par exemple aux deux commissions Stora sur la guerre d'Algérie, on pense au rapport Vincent Duclert sur l'affaire postcoloniale du génocide des Tutsis au Rwanda, sur la guerre du Cameroun entre 1955 et 1971. Donc tout ça fait partie quand même d'une espèce de stratégie de mise à plat mémorielle qui me semble être quand même assez remarquable pour être souligné, quels qu'en soient ensuite les effets, je dirais que c'est une autre affaire. Premier point. Alors ensuite, est-ce qu'on peut effectivement mesurer la dette? Moi, mon sentiment, mais je ne suis pas un spécialiste de l'esclavage, je suis un spécialiste de la colonisation, c'est que cette dette, elle est incommensurable. On pourra peut-être chiffrer, d'ailleurs, quand vous penchez un peu sur l'histoire du chiffrement de la dette pour l'esclavage ou pour les colonies ou pour les deux, vous arrivez à des chiffres qui sont d'abord totalement différents en fonction des spécialistes, donc des économistes en général qui s'y penchent, et qui peuvent atteindre des sommes presque inimaginables. On parle de 200 ou 300 billions de dollars, donc des sommes que de toute façon sont irremboursables d'une certaine manière. Mais je pense que l'incommensurabilité de la dette, elle est d'une autre nature. De mon point de vue, c'est très difficile de mesurer en fait les effets à la fois de l'esclavage et de la colonisation, à la fois sur la déstructuration des sociétés. Ça, ce sont des phénomènes qui sont extrêmement profonds et qui se prolongent d'ailleurs aujourd'hui dans l'ère postcoloniale, il ne faut pas l'oublier. La perte de confiance aussi des sociétés qui ont été esclavagisées ou des sociétés qui ont été colonisées. Quand on vous répète, pour ne prendre que l'exemple de la colonisation moderne, donc dès la conquête de l'Algérie en 1830, donc une colonisation qui va durer plus d'un siècle. Quand on répète à longueur de temps que vous êtes issu d'une civilisation inférieure et que tout ce à quoi vous croyez ne vaut rien, bah, ça a des effets évidemment là aussi d'une fracture à la fois culturelle, psychique énorme qui là aussi est incommensurable. La fracture culturelle, on la connaît. On a aujourd'hui les débats qui sont très vifs hein, sur le retour des biens culturels. Alors évidemment qu'il faut retourner les biens culturels, mais enfin les dégâts, ils sont faits d'une certaine manière. Donc, vous voyez, cette question de la réparation, elle engage une réflexion qui, à mon avis, est beaucoup plus large que la seule réflexion économique. Et elle engage peut-être des réparations qui vont justement au-delà de ce qu'on peut penser au premier abord, c'est-à-dire rembourser la dette d'Haïti, rembourser les dégâts de l'esclavage. À mon avis, ça va beaucoup plus loin que ça. Ça nous amène à penser, en fait, une redéfinition complète de nos rapports, non seulement à l'histoire passée, mais aussi à nos rapports contemporains.
Oui, il faut donc repenser tous ces rapports-là. Et Nance Saint-Fleur, justement, vous, est-ce que, on a commencé à l'évoquer, quelle évolution des rapports souhaitez-vous ou espérez-vous voir entre Haïti et la France, entre les anciennes colonies de manière plus large et les anciens colonisateurs ?
Très bien. Alors ici, dans les propos de circonstances, le président de la République fait état d'une sorte d'harmonisation des rapports. Mais comment harmoniser les rapports ? C'est ça la grande question. Mmh. Et puisque nous ressentons encore les méfaits de la dette, et les méfaits de la colonisation, si je mets en phase les mécanismes mis en place pour payer la dette, tout ça. Mais je pense que le dialogue est toujours possible. L'évolution des rapports entre Haïti et la France est toujours possible. Mais ce qu'il faut, pour moi-même, en mon sens, c'est que ici et là, donc on doit repenser en Haïti, chez nous, la question de la gouvernance. La France devrait normalement aider Haïti dans la mesure du possible à implanter en Haïti l'idée de la bonne gouvernance, puisque à partir de la bonne gouvernance, on peut commencer par voir comment est-ce possible, eh bien, non seulement d'améliorer nos rapports avec la France, mais d'améliorer les rapports d'Haïti avec d'autres pays dans le monde. Donc je pense que c'est de là qu'il faut partir. Mmh. Je n'ai pas fini encore, mais améliorer les rapports, mais la question de la dette, ça fait le nœud entre Haïti et la France pour le moment, puisque depuis plus d'une bonne vingtaine d'années, la question est toujours renouvelée entre la dette. De façon, c'est une question à résoudre, je pense. La question de la dette.
Oui, et puis ça a longtemps été un tabou. On avait vu François Hollande, lorsqu'il avait, en 2015, commencé à évoquer le fait que la France allait dédommager Haïti. Il y a eu tout un coup un rétropédalage quelques jours plus tard, en précisant pas financièrement. Ça a été un tabou qui, là au moins, on commence à discuter sérieusement.
Tout à fait. Et on voulait faire de cette question de la dette une sorte de distraction diplomatique. On dit tout, c'est comme si on a pitié pour Haïti, pour les Haïtiens, etc. C'est un crime, etc. Mais franchement, ça reste au stade de lamentation, au stade des discours, mais rien de concret jusque-là n'est pas encore fait.
Frédéric Régent, est-ce que vous trouvez que justement on commence à progresser en France sur le travail de mémoire de la colonisation et de l'esclavage et sur d'éventuelles réparations, que ce soit financières ou sous d'autres formes, ou est-ce qu'on reste très en retard ?
Alors, sur la mémoire de l'esclavage, je pense que la France est un des pays qui est le plus sensible à ces questions, avec deux journées nationales, le 10 mai et le 23 mai, avec un mémorial qui va être érigé au Trocadéro, un mémorial des victimes de l'esclavage. Donc il y a une politique mémorielle, il y a une politique de l'enseignement de l'esclavage. Alors maintenant, après, c'est effectivement tout ce débat autour des réparations. Peut-on réparer l'esclavage ? Comment le faire de manière symbolique ou l'enseignement, la recherche, les publications, enfin voilà, c'est... Mais encore une fois, il faut bien revenir à l'histoire, parce que bon, il faut comprendre que en 1825, il y a deux indemnités qui vont être demandées, une qui est demandée au peuple français et une qui est demandée au peuple haïtien. Au peuple français, c'est le milliard des émigrés. Et au peuple haïtien, ce sont les 150 millions. Et encore une fois, ce que l'on voit, c'est que cette dette va être... ces indemnités vont être financées par les peuples, haïtiens et français, au bénéfice d'élites. Et c'est aussi cette question-là qu'il faut aujourd'hui poser du rapport entre le peuple et les élites. Et j'entends ce que disait Nance Saint-Fleur, hein, par rapport à la gouvernance d'Haïti. Là, effectivement, il y a un souci, parce que ce qu'il faut voir dans cette dette, dans cette indemnité, pardon, c'est que ça a été aussi le moyen pour les élites haïtiennes du 19e siècle de s'accaparer définitivement les terres laissées abandonnées par les planteurs. Et parce qu'une terre, finalement, tant qu'il y a un soupçon de légalité sur sa possession, vous ne pouvez pas la vendre et en profiter au même titre qu'une fois que c'est figé et que c'est officiellement reconnu. Donc c'est cet élément-là qu'il faut voir. Et puis, dans l'ordonnance de 1825, il y a aussi une chose qui d'ailleurs était peut-être la chose la plus critiquée par les gouvernants haïtiens de l'époque, c'était les demi-droits de douane. C'est-à-dire que la France avait un avantage commercial. À Haïti, elle payait moitié moins de droits de douane que les autres pays, alors que le principal partenaire commercial d'Haïti était la France. Oui. Donc si les recettes d'un État,
cela nuit là
c'est
aussi
les droits
au développement.
De douane, ça nuit aussi oui. Au développement. Et ça, c'était également très contesté.
h45 en temps universel, vous écoutez bien RFI. Le débat du jour est cette question, la dette coloniale peut-elle être remboursée? On en parle avec Enance Saint-Fleur, professeur d'histoire moderne à l'Université d'État d'Haïti, Frédéric Réjean, maître de conférence à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et puis en ligne avec nous, Nicolas Bancel, historien, professeur à l'Université de Lausanne. On a commencé à l'évoquer, il y a aussi une question alors au-delà du côté financier, une question quasiment culturelle, une question de rapport à l'histoire. Frédéric Réjean, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème aujourd'hui lié au fait que dans les anciennes puissances coloniales, on ne connaît pas assez cette histoire?
Non, on ne la connaît pas. On pense souvent que... d'ailleurs, on le voit dans les débats. Hein, lorsqu'on a voulu réformer les programmes, certains disaient « Ah, on ne parle plus assez de François Ier, Louis XIV, et d'intégrer cette histoire mondiale de la France ». Et cette histoire coloniale de la France, hein, qui remonte donc dès 1608 avec le début de la colonisation du Canada, puis ensuite 1635, Guadeloupe, Martinique et autres. Et c'est vrai que ce serait bien que... Enfin, ça commence à être fait, mais il faut de plus en plus prendre conscience que l'histoire de France, c'est une histoire qui s'étend sur plusieurs continents, avec des rapports, avec des populations qui aujourd'hui sont indépendantes, mais qui sont d'anciennes colonies françaises. Regardez, à Haïti, les gens parlent français.
Et
créole, mais ils parlent français.
Et alors, je crois que Nicolas Bancel, en ligne avec nous, souhaite intervenir justement. Nicolas Bancel, qu'en pensez-vous?
Oui, justement, mais c'est sur cette question de la... C'est vrai que pour l'histoire et la mémoire de l'esclavage, on a entrepris quand même un certain nombre de choses, comme on vient de le souligner. Il y a le Memorial Act aussi en Guadeloupe. On a les anneaux de la mémoire à Nantes. Il y a des projets à Bordeaux. Il y a, je crois, quelque chose qui s'est passé depuis une quinzaine d'années qui fait que cette histoire est remontée à la surface et qu'il y a une forme de reconnaissance, sans doute encore incomplète, mais qui est incontestable. C'est plus difficile pour l'histoire coloniale. Je viens de parler des lieux institutionnels qui sont réservés et qui sont consacrés en fait à l'histoire de l'esclavage. On a une histoire coloniale qui est très longue. On vient de souligner, elle commence en 1608 et le deuxième empire, enfin l'empire colonial moderne, il démarre avec l'Algérie en 1830. Ça a un impact extrêmement fort sur notre histoire contemporaine, y compris aujourd'hui dans ses effets postcoloniaux. Et il est à souligner que nous n'avons aucun lieu institutionnel qui est consacré à l'histoire coloniale. Donc là, il y a une espèce d'incongruité, en tout cas une forme de déni, peut-être de frilosité, je ne sais pas, mais qui montre que ce débat est encore extrêmement difficile. D'ailleurs, on a vu, par exemple, dans le rapport, les effets du rapport Stora. Le rapport Stora sur l'Algérie était très contesté, notamment par un certain nombre d'associations, mais aussi une partie de la droite, parce qu'il remettait en question, je dirais, le livret, un peu le cantique national, le récit national sur l'histoire de la France. Donc c'est encore une question qu'on a vraiment du mal à aborder. Mais on voit que ça vient au débat public par des films, ça vient par des documentaires, ça vient par des initiatives aussi d'associations, ça vient aussi, je l'espère, par le travail des historiens qui se sont beaucoup consacrés, qui ont beaucoup consacré vraiment leurs efforts à la mise à jour de cette histoire coloniale. Et je dirais aussi, parce que je crois que c'est important à ces effets postcoloniaux. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que on est ici dans une perspective de réparation, donc qui est à discuter. Hein. Moi, je pense que c'est une décision éminemment politique. Mais elle ne doit pas aussi nous empêcher de comprendre les difficultés d'un pays comme Haïti sur sa, je dirais, les causes endogènes, qui ne sont pas seulement le résultat de l'histoire coloniale, qui sont aussi le résultat d'une histoire des acteurs sociaux locaux, de l'histoire politique d'Haïti, qui aboutissent, on le voit, ça a été souligné par mes collègues, aux difficultés actuelles. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que non plus cette histoire lourde, évidemment, pesante, avec des effets importants, mais soit vue comme l'unique, je dirais, explication des situations contemporaines, des états postcoloniaux, parce que là, on irait dans une espèce d'impasse qui nous empêcherait en fait de penser la complexité des situations actuelles.
Mmh. Et Nonce Saint-Fleur, justement, aujourd'hui, en Haïti, comment est-ce que cette histoire, elle est perçue aujourd'hui? Et est-ce que c'est quelque chose qui... On le disait, par exemple, en France, on parle très peu de la colonisation d'Haïti. Est-ce qu'à l'inverse, c'est quelque chose d'omniprésent?
Oui, des efforts sont en train d'être faits pour mettre la population au courant de ce qui s'était passé, de leur histoire, en fait, de leur histoire des peuples, puisque de 1492 à aujourd'hui, en 1804, ça a déjà fait environ plus de 300 ans dans l'esclavage. Bon, c'est une histoire plus ou moins oubliée avec le temps. L'histoire n'évolue pas grandement en Haïti, mais on est en train de faire quelque chose. Et on est en train de monter des instituts d'histoire, justement, autour de la question. Mais ce qui est important, c'est les méfaits de l'esclavage. C'est-à-dire, l'esclavage fait partie même de notre quotidienneté, notre façon de voir, notre façon de penser.
C'est-à-dire les
stigmates de l'esclavage. Nous sommes encore victimes des stigmates de l'esclavage. Mmh. C'est ça le problème. Après, puisque nous sommes aujourd'hui en 2025, 200 ans après, eh bien, Haïti est encore là. C'est-à-dire... les Haïtiens nous mènent une vie encore à la traîne, c'est la misère, c'est l'insécurité, et c'est le coup, si vous voulez, c'est la mauvaise gouvernance, c'est tout à la fois. Hein. Et donc c'est la détresse économique, la misère populaire, si vous voulez, l'insécurité qui gangrène, donc c'est tout. C'est-à-dire, on peut, ces temps-ci, coller à Haïti toutes sortes de mauvaises étiquettes en termes de mauvaise gouvernance.
Mmh. Donc, non, je voulais redonner aussi la parole à Nicolas Bancel sur un autre point que vous avez abordé il y a quelques instants. Le fait qu'en France, on a pris du retard en quelque sorte sur la mémoire de la colonisation. Est-ce qu'il y a d'autres pays qui, eux, peut-être, ont avancé plus vite ou en tout cas peuvent nous inspirer ou aider à être un peu des modèles pour essayer de comprendre comment faire un travail de mémoire et de réparation?
Alors, il y a des pays, effectivement, qui ont avancé assez récemment, c'est quand même à souligner, mais qui ont avancé de manière fulgurante. Je vais donner deux exemples. Un exemple qui est proche de nous, c'est la Belgique, puisque proche de nous en termes historiques, puisque la Belgique était aussi un État colonisateur important pendant tout le 19e et une partie du 20e siècle. Et la Belgique avait un musée, le musée de Tervuren, qui était l'ancien musée colonial, comme nous en avions un d'ailleurs jusqu'aux indépendances, qui était un vieux musée jusqu'à une quinzaine d'années, qui était vraiment sur un discours très conservateur sur la colonisation, les réalisations coloniales, les routes, les ponts, etc., puis quelques expositions ethnographiques, et qui a complètement revu son modèle. Ils ont totalement modernisé à la fois le lieu, mais aussi les collections et l'orientation, on va dire, muséographique, en proposant des expositions, une exposition permanente et surtout des expositions temporaires très, je dirais, pas engagées, c'est peut-être un terme un peu fort, mais en tout cas qui viennent problématiser la colonisation, à la fois dans ses effets dans les pays colonisés, mais aussi pour la Belgique elle-même, avec une exposition à laquelle j'avais participé sur les exhibitions ethniques qui ont été produites dans toute l'Europe pendant plus de 60 ans, des expositions sur la colonisation belge et les horreurs qui ont eu lieu au Congo sous la férule de Léopold II. Donc il y a eu vraiment un travail important, je dirais, en lien avec les historiens non seulement belges, mais aussi tous les historiens de la colonisation belge au niveau international. C'est le premier exemple. On voit que là, il y a eu un effort de fait par une volonté politique. Deuxième exemple, très rapidement, un pays dans lequel j'enseigne aujourd'hui, la Suisse, qui quand on pense à la Suisse, on se dit bah, finalement, la Suisse n'a pas une histoire coloniale.
Oui, on n'imagine pas la Suisse à la tête d'un empire colonial,
voilà.
A priori.
Mais enfin, elle n'a pas eu d'empire. Mais elle a eu une action, d'ailleurs, également dans l'esclavage, mais ça serait trop long à expliciter. Elle a eu une action, en fait, pendant la colonisation, double à la fois par des acteurs économiques qui ont joué un rôle très important dans un certain nombre de domaines d'exploitation des matières premières dans la colonisation, de commerce, de navigation, etc. Mais aussi, la Suisse a été traversée par les effets de la colonisation. En Suisse, on a eu des exhibitions ethniques, ce qu'on appelait les zoos humains. On a eu les mêmes images, les mêmes représentations dévalorisantes d'origine coloniale sur les populations colonisées qui se sont propagées en Suisse, avec là aussi des expositions coloniales quasiment transposées dans les villes suisses. Et la Suisse a fait, qui était jusque-là très très peu concerné par cette question. Moi, je suis en Suisse depuis 20 ans maintenant. Quand je suis arrivé, tout le monde se fichait totalement de l'histoire coloniale, entre guillemets, de la Suisse. Aujourd'hui, c'est un thème qui est remonté à la surface. Et vous avez, ces quatre dernières années, les quatre plus grands musées de Suisse qui ont consacré des expositions à cette question-là, c'est-à-dire le rôle de la Suisse, ou des Suisses, ou de l'activité économique de la Suisse, de l'exotisme, le rôle de l'exotisme dans la structuration des représentations de l'ailleurs et de l'autre. Et bien, nous avons eu quatre grandes expositions donc dans les grands musées des grandes villes suisses. Donc c'est un thème qui est revenu au débat public,
oui.
Qui interroge d'ailleurs les lieux comme Genève, où on a eu un énorme travail pour d'un collègue à moi de l'université de Genève qui a identifié tous les lieux qui ont un rapport avec l'histoire coloniale.
Et rapidement, voilà, si j'aurais donné la parole une dernière fois à Frédéric Réjean avant, oui, que l'on termine le débat.
Cette question a été traitée, ce que nous n'avons pas encore fait.
Oui, et je me tourne maintenant vers vous, Frédéric Réjean. On approche de la fin du débat, mais là, on vient de parler des expositions, de ce travail muséal pour mettre en avant, dans les anciennes puissances coloniales, cette histoire, faire comprendre ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a d'autres chantiers sur lesquels on peut agir pour faire avancer ce travail, à défaut de remboursement, mais de reconnaissance de ce qui s'est passé?
Oui, alors déjà l'édification du mémorial, et puis aussi dans les anciennes colonies esclavagistes, je crois qu'il y a Haïti, mais on a des difficultés aussi très importantes aux Antilles, à La Réunion, en Guyane. Il faut aussi, pour que les gens ne cessent de se référer au passé, gommer un certain nombre d'inégalités sociales et culturelles qui sont fortement présentes. Donc ça, c'est quelque chose d'important.
Oui, c'est gommer des inégalités qui existent, notamment quand on,
voilà,
pense aux Antilles,
les difficultés. Et comme l'a dit Nicolas Bancel, tout n'est pas lié à l'esclavage, à la colonisation. Il y a aussi le rôle des acteurs du présent. Voilà, Haïti, les gangs aujourd'hui, c'est ni l'esclavage ni la colonisation. Donc, il faut aussi mesurer les choses et pas se défausser complètement sur le passé. Et j'en profite pour dire que la semaine prochaine, j'ai mon nouvel ouvrage qui s'appelle Paroles d'esclaves qui va sortir. Voilà,
bon, chez Fayard. Voilà. C'est bien noté. Si les auditeurs et auditrices veulent approfondir, ils pourront le trouver. Merci à tous les trois, Nicolas Bancel, Frédéric Réjean et Nance Saint-Fleur. Ce débat, chers auditeurs, chères auditrices, vous pouvez le retrouver sur l'application RFI Pure Radio. Dans quelques minutes, le grand journal du soir de Christophe Paget avec un dossier dédié aux relations franco-américaines. Et puis dans une demi-heure, c'est Afrique Soir avec Sylvie Berruet. Bonsoir.
Bonsoir Diane.
Quel est le programme ?
Alors nous parlerons des projets américains en Afrique centrale, puisque Massad Boulos, le conseiller du président américain Donald Trump, fait le bilan de sa récente tournée en Afrique centrale. Il appelle au retrait des troupes rwandaises dans l'est de la RDC. Il revient également sur les projets d'investissement américains dans le secteur minier. La colère gronde dans l'état pétrolier de Rivers. Là, nous sommes au Nigeria, où l'état d'urgence a été décrété. Et c'est la nomination d'un administrateur militaire à la tête de l'état qui est contestée dans la rue. Nous parlerons de cette psychose au Tchad sur des rumeurs de vol de sexe. Le gouvernement tchadien est obligé d'intervenir pour rassurer les populations. Et puis vers un retour de l'excision en Gambie, ce sera le dossier d'Afrique Soir avec notre invité. Nous y reviendrons bien sûr, notre invité, Mme Sira Konaté, qui est secrétaire générale du collectif des Africaines contre les violences liées aux traditions. Enfin, nous irons au FEMUA, au Festival des musiques urbaines d'Anoumabo à Abidjan. Retrouvez notre envoyé spécial, Guillaume Thibault.
Merci beaucoup, Sylvie Berruet. On vous retrouve dans une trentaine de minutes. Et puis, restez à l'écoute de RFI dans quelques instants, un grand journal international.